Alors, ça, c'est grand A. Alors, grand B, les guerres juives. C'est ce qu'on a appelé ça, les guerres juives. Hein. Alors, il va y avoir un essai de restauration. L'empereur Claude, vous savez, celui qui sera assassiné, reconstitue le royaume d'Hérode le Grand au profit de son petit-fils, du petit-fils d'Hérode le Grand, qui s'appelle Agrippa Ier, hein, sachant que donc un certain nombre de fils d'Hérode avaient disparu, soit morts, soit exilés. Donc il restait moins de candidats, si bien qu'on reforme le royaume au profit d'un roi évidemment sous tutelle complète de l'administration romaine. Et c'est lui qui, justement, soucieux de plaire aux pharisiens, très populaire. Alors, songez que c'est une dynastie qui n'est pas juive. Donc, il faut flatter les juifs pour bien se faire, comment dire, accepter d'eux,
Et les Romains.
et les Romains en même temps. Et ben là, par exemple, il va déclencher la première persécution contre les chrétiens, puisque les chrétiens finalement plaisent pas aux juifs. Ben, pour plaire aux juifs, on va taper sur les chrétiens qui sont vraiment pas nombreux, donc c'est pas en les liquidant qu'on risque grand-chose. Vous voyez, c'est vraiment très politique. Et c'est justement Jacques qui va faire les frais de cette persécution. Au moment où justement le procurateur n'est pas là. Alors après l'assassinat de Claude, les Romains vont déposséder le roi de son pouvoir, donc le roi Agrippa, et ils vont installer à nouveau des gouverneurs, des procurateurs. Et Agrippa II, donc le successeur, qui ne gouverne pas, hein, puisque la province de Judée est administrée, sous-administrée par la province de Syrie, eh bien, ne peut que constater la cruauté des Romains et aussi la révolte qui gronde, car le parti zélote continue de se recruter avec cette idée. Et soutenu en même temps par les, disons, oui, par certains pharisiens qui veulent aussi retrouver l'indépendance pour être plus libres pour pratiquer leur religion. Alors c'est là que la première guerre juive va se déclencher. Alors il est vrai que Néron va multiplier les erreurs en laissant ces gouverneurs sottement provoquaient les juifs, notamment en installant une cohorte d'origine gauloise dont l'enseigne était un sanglier dans Jérusalem, ce qui n'était pas très fin. Vous voyez? Et donc, sous l'impulsion des Zélotes, justement, ce parti nationaliste, oui. Alors, ils vont réussir à s'emparer de Massada, qui était fort, fort peu défendu, enfin, à cause de la paix. Et finalement, le peuple se soulève, va suivre les Zélotes, et les classes sacerdotales, donc les Sadducéens, qui étaient allés jusqu'à organiser un culte quotidien à l'empereur, finalement, vont se rallier au mouvement et en prendre la tête. Hein. C'est-à-dire, eux, ils voulaient surtout être tranquilles, ils voulaient continuer à être la couche dominante, s'aperçoivent que tout le peuple va contre les Romains, ils se disent, si on résiste au peuple, on est liquidé, alors mieux vaut surfer sur la vague et donc soutenir la révolte juive. Alors, le grand prêtre, qui néanmoins déconseillait cette révolte, est assassiné. Donc, si bien que les autres, eh bien, notamment Flavius Joseph, hein, qui n'était pas partisan non plus de la révolte, mais du coup va se rallier à la révolte pour Et évidemment, va être, comme ce sont les plus cultivés, les plus doués, ben, c'est eux qui vont être nommés chefs. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, révolte, les collaborateurs juifs du pouvoir romain, en particulier les publicains, vont être massacrés. Les colons grecs, etc., vont être aussi massacrés. Et ce qui va entraîner des représailles. Alors, les premiers qui vont payer, ce sont les colonies juives de la diaspora, parce que c'est, on les a sous la main, c'est facile de les massacrer. Donc, des milliers de juifs, par exemple, sont massacrés à Alexandrie, en représailles des Romains et des Grecs massacrés en Judée. Et on va aller plus loin, on va reprendre, faire une campagne pour reprendre la Judée aux Juifs. Alors l'armée romaine la plus proche est celle de Syrie. Donc l'armée de Syrie va descendre en Judée. Et il va lui arriver exactement la même chose que l'armée séleucide qui débarque en Judée au moment de la révolte des Maccabées. Elle va se faire battre. Donc les premiers, les Romains s'étaient dit quand même il suffit d'une armée provinciale pour rétablir l'ordre dans cette province éloignée. Eh bien, en fait, leur armée est battue. Immédiatement, les Sadducéens comprennent que, on a marqué un point, mais on n'en marquera probablement pas deux. Donc, ils vont chercher à négocier avec les Romains. Flavius Joseph, qui va raconter toute l'histoire de cette première guerre juive, commande donc les forces juives en Galilée, dans la partie la plus exposée au nord. Lui aussi est partisan il connaît trop bien le monde romain pour se dire que les Romains vont rester là. Donc il conseille également la négociation, mais les extrémistes vont les pousser à l'intransigeance. Donc autrement dit, ceux qui connaissent le moins les réalités politiques et militaires vont pousser les chefs finalement à l'intransigeance. Et eux, pour ne pas être assassinés par leurs gens, vont être obligés d'être intransigeants aussi, sachant très bien qu'ils foncent dans le mur. Et c'est ce qui va se passer. En attendant, les révoltés se divisent en trois camps. Trois camps, même d'ailleurs, dans Jérusalem même, donc je vous avais dit une fois, il y a trois camps rivaux qui vont s'encercler mutuellement dans la ville. Notamment là, alors les Sadducéens, plutôt partisans de la négociation, qui sont encerclés autour du temple par les Zélotes qui veulent avoir leur peau, et puis encore un autre camp, notamment les pharisiens qui eux aussi veulent se sortir de cette affaire. Vespasien, qui est le général qui prend le commandement des forces de reconquête, habilement temporise. En laissant les Juifs se diviser, s'entretuer, faciliter la reconquête. Et avec l'appui d'Agrippa II, qui lui est inféodé aux Romains, il reprend en 67 la Galilée. Les Zélotes vaincus vont se suicider en masse. Et ceux de Jérusalem se préparent, comme à l'époque du siège par les Babyloniens, à une résistance désespérée dans la ville, en liquidant déjà, pour commencer, tous les modérés qu'ils soupçonnent d'être des futurs traîtres. Donc, je vous dis, il y a les différents camps qui vont s'entretuer dans Jérusalem, parce que les Zélotes prennent le pouvoir sur les Sadducéens et les pharisiens parce qu'ils les soupçonnent de vouloir traiter avec les Romains et qu'au moment où l'armée romaine viendra devant Jérusalem, ils ouvriront les portes. Pendant que les Juifs s'entretuent, que les Zélotes finalement mettent en état de défense Jérusalem, Vespasien, lui, s'empare de la Samarie, qui en avait aussi profité pour se révolter, et massacre des milliers d'habitants. Devenu empereur, après l'assassinat de le suicide de Néron, il va laisser à son fils Titus, le délice des genres humains, comme on dit, le soin d'achever la reconquête. Alors, donc Titus arrive devant Jérusalem, ensanglanté par les factions, affaibli quand même à cause de tous ces massacres, et Jérusalem tombera, tandis que les Zélotes, après avoir massacré les Sadducéens, se réfugient dans le temple, qui devient la dernière forteresse de Jérusalem. Et ce temple, qui venait tout juste d'être achevé, complètement incendié par les Romains, complètement détruit, et tous les défenseurs se suicident pour ne pas tomber vivants entre les mains des Romains. Et ceux qui survivent au massacre, eh bien, seront déportés. Et la dernière poche de résistance sera la formidable forteresse de Massada, dans le désert de Judée, où un siège de plusieurs mois va se développer, avec 10 000 soldats romains, avec des auxiliaires, etc. Une gigantesque rampe. C'était le système, vous voyez, quand on n'arrive pas dans... Souvent, les forteresses de l'époque, elles sont sur des tels, enfin, sur des éminences. Et puis, vous savez, la métonymie pour désigner une ville, c'est dire les portes. Parce qu'en fait, la zone la plus vulnérable, ce sont les portes. Donc, c'est des portes souvent fortifiées, avec des tours, des bastions, etc., etc., alors que les murs sont souvent des murs, en plus des murs à casemates, des murs épais. Bon, voilà. Donc, en général, la partie la plus accessible d'une ville, c'est la porte, parce qu'il faut bien y arriver. Donc, il y a toujours une déclivité qui permet d'y arriver. Et alors, pour arriver... alors, quand une ville est assiégée, on cherche à raser ce qui permet l'accès. Et évidemment, les assiégeants, eux, font le contraire. Ils vont construire des rampes qui leur permettent, à l'époque où il n'y a pas de canon, même s'il y a des balistes ou des machins qui envoient des pierres ou des flèches, d'amener des béliers, d'apporter des béliers qui permettent d'enfoncer les portes. Donc il faut quand même que ça soit au niveau de la porte. Donc, alors sous les coups de l'adversaire, protégé par des espèces de structures comme les... Voilà. Donc des ouvriers travaillent, protégés, alors que les autres leur jettent des pierres, de l'huile enflammée, des trucs, etc. Jusqu'au moment où ils arrivent avec leur char de... leur bélier blindé, protégé, d'enfoncer les portes. Et une fois que la porte est enfoncée, la brèche est faite, et à ce moment-là, l'infanterie s'engouffre dans la ville. Et c'est donc ce qui se passe à Jérusalem. Et donc à Massada, et le millier de survivants va se suicider en se précipitant des hauteurs, etc. C'est très impressionnant de voir comment ces zélotes ont eu cette culture de suicide, qui est quand même pas une culture très pas très juive. Encore que Saül se serait suicidé. Enfin, il y a plusieurs histoires sur la bataille des monts Guelboé, et notamment il y en a une où on dit que c'est un auxiliaire de l'armée juive qui tue Saül et qui s'en glorifie en disant il n'est pas tombé dans les mains de l'adversaire. Et puis dans une autre, c'est celui lui-même qui se suicide.
Il y a un cas de suicide dans cet testament. Est-ce que c'est Ahithophel ou pas, je ne sais plus, mais je sais qu'il y a un conseiller dont les conseils sont rejetés.
Ah oui,
qui se suicide.
Ah bah ça, je m'en souviens plus. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est pas très porté. Alors curieusement, les zélotes qui sont les plus nationalistes d'entre les juifs, mais pas les plus religieux, eh bien, eux ont cette culture du suicide. Et les Esséniens, qui étaient une secte apocalyptique installé sur le rocher de Qumran, qui s'était aussi rallié à la révolte en y voyant le commencement de la fin des temps, vont être aussi détruits. Ils disparaîtront. Et les chrétiens, là-dedans, finalement, ils vont tirer leur épingle du jeu, parce que, ayant été providentiellement persécutés par les juifs avant, eh bien, ils sont partis. Ils sont partis en Galilée, dans des endroits plus tranquilles, et puis même au-delà des mers, comme par exemple Paul et d'autres, Barnabé, et Thomas, etc. Donc la grande évangélisation, elle est aussi liée au fait que la communauté primitive en Judée a été dispersée par la persécution. Et alors après, il y aura une seconde guerre juive. Alors, il faut voir, les Romains sont quand même originaux. Enfin. Donc, les Juifs dispersés sont autorisés à retourner à Jérusalem, mais le jour... Je crois que c'est le jour anniversaire de la destruction du Temple. Donc, ils peuvent s'approcher de Jérusalem. Il y a un certain nombre d'habitants qui vont retourner dans la ville dévastée, mais il n'y a plus de culte puisque le temple est détruit. Toute l'élite sacerdotale a été soit tuée par les zélotes, soit encore tuée par ce qui restait par les Romains. Sachant qu'un certain nombre avaient été obligés de se mettre à la tête de la révolte, et donc ils ont été aussi tués par les Romains. Et c'est à ce moment-là que, finalement, les pharisiens, qui, eux, ont essayé aussi de prendre le large, parce que, finalement, eux, ce qui les intéresse, c'était pratiquer la loi. Ils se fichaient pas mal de savoir si on était sous domination romaine ou autre. Dès l'instant que les Romains les embêtaient pas pour pratiquer la loi, eux, ils étaient pas contre. Et donc, ils vont se réunir en Galilée, dans un endroit qui s'appelle Jamnia, pour fonder une sorte de... Voilà, c'est eux qui vont être à la base de la Bible hébraïque, de cette Bible qui va être la Bible actuelle des Juifs et qui va, en fait, rassembler un certain nombre de traditions variées, etc., etc. C'est eux qui vont, finalement, boucler le canon de la Bible. Donc, c'est en 90 que ce Sanhédrin de pharisiens va fixer le canon des Écritures juives, ainsi que la loi orale et les commentaires des pères, des scribes, et ça sera ce qu'on appelle la Mishnah, œuvre de Rabbi Akiba, qui est au cœur du Talmud, qui est ce commentaire, commentaire juridique en quelque sorte de la Bible, pour organiser la vie de tous les jours. Et puis, il y aura ce qu'on appelle les midrashim aussi, toute une littérature de commentaires scripturaires. On commente la Bible, puisque désormais il n'y a plus de culte au temple. Le culte devient un culte spirituel, c'est-à-dire de prière avec lecture de la Bible dans les synagogues. Et puis évidemment des gens qui vont commenter, comme on le voyait déjà à l'époque de Jésus. Et donc, tous ces commentaires bibliques sont appelés des midrashim, midrash. Et il y aura également, comme cette Bible est faite en hébreu et qu'on a même soigneusement expurgé les textes grecs, justement pour garder la pureté originelle, il y aura des traductions en langue vulgaire. Traductions, à l'époque, on ne fait pas des traductions littérales, hein, ce sont des traductions souvent un peu interprétatives, qu'on appelle des targumim, qui sont alors en langue syriaque, en langue vulgaire, disons en araméen, hein, notamment. Donc les chrétiens, eux, sont partis, mais souvent ils sont confondus avec les juifs, et parfois ils sont aussi persécutés par les Romains à cause de ça. On les confond. Pourquoi ? Parce qu'ils apparaissent comme une secte. Vu de loin, ils apparaissent comme une secte dissidente du judaïsme, comme avaient pu l'être les Esséniens ou d'autres mouvements à l'intérieur. Alors, les Juifs, eux, ne les aiment toujours pas, et ils vont s'arranger pour les exclure de la notion de religion licite, qui permettait justement aux Juifs de continuer à pratiquer leur culte, désormais amputé du culte du temple à Jérusalem, parce que bon, les choses s'étaient quand même tassées après la victoire de Titus. Et du coup, les chrétiens vont être à nouveau persécutés, mais cette fois-ci sur la base de l'athéisme, puisqu'ils ne sont plus dans une des confréries religieuses autorisées par l'Empire, ils sont considérés comme étant sans Dieu, sans religion, et donc danger pour l'Empire. Hein, c'est la plupart du temps, quand on voit les motifs de persécution au début du IIe siècle, c'est pour motif d'athéisme. Alors l'empereur Adrien, justement, au début du IIe siècle, en 130, va ordonner la reconstruction de Jérusalem, et cette fois-ci sur un mode purement romain. Donc ça sera une cité romaine, Aelia Capitolina, qui, avec sa structure typique d'une ville romaine, on a gardé des mosaïques qui représentent avec les colonnades, etc., qui représentent la ville. Et alors, il y a un certain Bar Kozba, qui prétend être le Messie des derniers temps, et qui va rallier... Alors, il y en a eu plusieurs qui se sont prétendus Messie. Hein. Vous savez que dans les Actes, on nous parle de... Je crois que c'est Gamaliel qui dit « Un tel se leva, il prétendait être quelque chose, et il a été liquidé avec ses 6000 partisans ». Mais là, donc, ce Bar Kokhba va rallier à lui tous les juifs pieux, dont ce rabbi Akiba, qui avait en quelque sorte contribué à la formation de ce nouveau judaïsme d'après la chute de Jérusalem. Et les chrétiens, qui sont une nouvelle fois, refusent de se rallier à cette révolte, vont être persécutés par les juifs. Et cette fois-ci, une nouvelle fois, les armées impériales sont envoyées pour mater la révolte. Et une révolte qui va être extrêmement violente. Hein. Il faudra 65 000 légionnaires, c'est-à-dire en fait l'équivalent de 10 légions, pour casser les reins de cette nouvelle révolte. Et c'est, alors, Jérusalem, donc, qui venait d'être construite comme cité romaine, est reprise. On installe un temple, alors un temple païen. Des forteresses un peu partout pour maintenir le pays. Et cette fois-ci, le pays est intégralement dévasté. Plus simplement, les villes sont prises et les gens vaincus. Mais le pays est dévasté, toutes les cités sont rasées, et ce qui reste de la population, massacrée ou déportée. Cette fois-ci, les Romains ont utilisé les grands moyens. Et on estime à plus d'un demi-million les pertes juives. Vous voyez, 1,5 million d'habitants... à l'époque un tiers de la population disparaît dans la tourmente. Et les Sadducéens disparaissent. Alors là, définitivement, on n'en entend plus parler. Ils survivront plus que dans les noms des familles qui se dispersent dans la diaspora. Et ce qui reste de pharisiens, va être déporté en Galilée, et après on aura l'installation d'autres populations. Alors on peut dire que la nation juive en tant que nation organisée a complètement disparu avec la deuxième guerre juive, Et elle sera en somme restaurée qu'avec en 47, là, avec le retour. Les Juifs survivants donc vont se disperser dans tout l'Empire, et même au-delà. Certains iront en Mésopotamie, etc., etc. Et ils formeront jusqu'à 7%, pense-t-on, de la population globale. Vous voyez, c'est quand même énorme, hein,
la population globale
de l'Empire. D'après les estimations, hein, ils continuent de garder leur statut de religion licite, ce qui leur confère évidemment des avantages en matière d'autonomie culturelle. Par exemple, avant, à l'époque où le temple existait, eh bien, ils pouvaient payer l'impôt religieux au temple de Jérusalem plutôt que de le payer au fisc romain. Alors, ils vont prospérer. Mais leur monothéisme, quoique séduisant pour les élites, qui sont de plus en plus monothéistes, hein, on raconte que Cicéron, dans le Corso Sonorum, croisant des aruspices, en fait, éclatait de rire, parce que lui faisait la même fonction sans y croire. Et de plus en plus, les élites romaines qui sont marquées par le scepticisme de l'académie, enfin du platonisme tardif, ont tendance à se rallier à l'idée de monothéisme. Et du coup, c'est assez, le judaïsme est assez séduisant pour eux, comme le sera le christianisme à un moment. Mais cette volonté de se distinguer des autres qui caractérise le judaïsme, qui a perdu son état, qui a perdu sa terre, donc il ne reste plus que sa religion, eh bien, va passer pour de la morgue et un particularisme que dans toutes les colonies dispersées dans l'Empire, ils cultivent jalousement, donc, qui justement les rend... Par exemple, un certain Philostrate, un auteur du IIIe siècle, dira « Ce peuple s'était depuis longtemps insurgé, non seulement contre les Romains, mais aussi contre le genre humain tout entier. Des hommes, alors voilà, il dit, des hommes qui ont imaginé une vie insociable, qui ne partagent avec leurs semblables ni la table, ni les libations, ni les sacrifices, sont plus éloignés de nous que Suse ou Bactre, c'est-à-dire les capitales des Perses ou des Mèdes. » Oui. Et justement, ben, un certain nombre de Juifs vont émigrer dans ces empires orientaux, notamment chez les Parthes, chez les Perses, et même au-delà. Et la prédication chrétienne, surtout en Occident, va en convertir un grand nombre. On le voit avec saint Paul dans comment des Juifs vont devenir chrétiens. Et alors, si je ne me trompe, après la Deuxième Guerre juive, il y aura les Romains, de manière ironique, cynique même, permettront aux Juifs de venir pleurer sur les ruines de Jérusalem le jour anniversaire, je crois, de la destruction du Temple ou quelque chose de ce genre, pour leur rappeler, quoi... qui est le plus fort. Voilà, donc c'est comme ça que se termine l'histoire juive, autrement dit avec un peuple qui avait déjà été déporté à plusieurs reprises, et là qui l'est définitivement, oui. Alors, quelle rétine ? Oh bon, on peut peut-être s'arrêter là si vous voulez. Je commencerai la fois suivante l'interprétation de la Bible, c'est-à-dire l'herméneutique biblique, c'est-à-dire comment lire la Bible.
Mardi, il y a encore cours, il y a cours.
Alors, je regarde.
Jeudi,
je pense que oui. Hein.
Parce qu'après.
Oui. Jeudi 11, oui. Alors. Le jeudi suivant, c'est le jeudi saint.
Donc,
pas de cours. Le jeudi d'après non plus, parce que c'est l'octave, et puis qu'on chante les messes, donc, elles sont plus longues. Puis oui, ce sont les vacances en plus.
Donc, il reste un cours alors.
Mais il ne reste pas tant de cours que ça. Le 2 mai, il n'y a pas cours non plus parce que c'est encore les vacances, je crois bien.
Ouais.